Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
On n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va ?
Salut Pauline, ça va très bien.
Et pour commencer cette émission, Mao, je te laisse introduire le thème du jour.
Oui, je vais y aller par un chemin détourné. Parfois, j'ai une envie, un souhait que seul un génie de la lampe pourrait réaliser. J'aimerais ne pas avoir de ventre, que je puisse manger, savourer sans limite, sans la moindre conséquence sur mon type digestif, sans effet sur ma corpulence, sans le risque d'une maladie, sans culpabilité. Bon, j'avoue, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas trop dans ce scénario où partirait la nourriture d'ailleurs. Mais ça dit bien sûr quelque chose de mon rapport au fait de manger, besoin physique évidemment, et plaisir qui ne peut s'empêcher d'être coupable. La culpabilité, elle pointe presque toujours le bout de son nez quand on se penche sur la relation complexe qu'on a avec la nourriture, l'alimentation et la cuisine. Je dis « on », vous l'aurez compris, c'est quand même essentiellement les femmes. Les femmes, et on en a eu encore l'illustration ce week-end avec l'élection d'une Miss France à la coupe courte, ce qui apparemment en 2023 est une forme d'extrémisme woke pour certains. Les femmes donc, qui doivent encore et toujours se conformer à des injonctions physiques et morales pour exister tranquillement dans la société. Des injonctions qui pèsent sur leur corps, sur leur manière de cuisiner, sur leur manière de manger. À l'approche des festins qui vont émailler ces tout derniers jours de l'année, on vous parle de bouffe ce soir dans On se lève et on se casse et surtout du rapport conflictuel que les femmes entretiennent avec la nourriture. Et on en parle avec deux invités, Pauline.
Et c'est l'heure maintenant de saluer nos invités. Pour cette émission, nous allons parler donc de femmes, de ce qu'elles mangent, parfois de ce qu'elles ne mangent pas, de ce qu'elles se privent de manger ou de ce qu'elles dévorent avec plaisir. Bref, comment on a déréglé l'appétit des femmes dans l'histoire. Lorraine Malka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes podcasteuse, vous écrivez régulièrement des chroniques pour le magazine féministe Cosette, mais aussi pour l'émission de Jamie Gourmaud, Les Épicurieux. Vous avez aussi réalisé un documentaire qui s'appelle La France au fourneau. Mais cette fois-ci, on vous reçoit pour votre dernier ouvrage qui s'appelle Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, qui est paru aux éditions Les Pérégrines le 6 octobre dernier.
Et justement, Lorraine, dans votre livre passionnant, on en parlera plus tard, vous développez tout un fil de pensée autour de l'écriture de la gastronomie, de la cuisine. Écriture qui peut notamment servir d'exutoire quand on ne peut pas se satisfaire de la réalité physique de la nourriture. Et notre deuxième invité a beaucoup écrit autour de la nourriture, beaucoup écrit et surtout beaucoup dessiné. Aurélia Horita, bonjour.
Bonjour ou bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes autrice de bande dessinée. Parmi vos ouvrages, on compte notamment Fraises et chocolat, Comme un chef avec Benoît Peters et La vie gourmande paru l'an dernier chez Casterman. Bienvenue à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Alors Lorraine Malka, on l'a dit, vous travaillez autour de ces questions depuis un moment déjà. En faisant des recherches pour cette émission, quelque chose m'a étonnée, tout en ayant l'impression qu'on parle constamment de nourriture, de food, on regarde des émissions. En parallèle, on a un renouveau du féminisme depuis les années 2010. Et pourtant, il y a assez peu d'articles écrits, en fait, d'essais grand public qui explorent vraiment l'histoire du rapport des femmes à la nourriture. Il faut citer votre consoeur Nora Boisouni, qui fait un gros boulot là-dessus aussi. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi d'écrire ce livre ?
Oui, merci. Merci pour votre invitation. Merci Pauline.
Merci à vous.
Oui, effectivement, c'est complètement pour ça. Alors, comme vous l'avez dit, Nora Boisouni travaille sur cette question. Vraiment, dans mon livre, je dis qu'elle prend son bâton de pèlerine pour aller explorer un chantier inexploré. Mais en fait, il y a très très peu de choses, et en particulier ce sur quoi il y a vraiment très peu de choses, je trouve, c'est sur le rapport des femmes au péché de gourmandise. Il y a une littérature gigantesque et une philosophie immense qui se penche sur la question du rapport de l'homme avec un grand H, donc soi-disant universel, mais qui en fait, cette universalité n'engage que
la moitié de la population, voilà, finalement.
Une partie de l'humanité, et même moins que la moitié en général. Ouais. Et en tout cas, celui qui a la parole, quoi, celui qui a cette, qui développe cette philosophie, considère qu'il parle en tant qu'homme avec un grand H. Or, le rapport à la gourmandise est très différent selon le genre, selon la classe sociale, selon le rapport auquel on est assigné, en fait, selon les stigmates qui nous assignent. Ouais.
Aurélia Horita, est-ce que le thème du livre de Lauren Malka, il vous a parlé? Est-ce qu'il vous parle? Comme l'écrivaine Ryoko Sekiguchi, qu'on adore et qui signe la préface, elle a beaucoup écrit sur la cuisine et elle dit « c'est le livre que j'aurais aimé écrire ».
Alors, moi, c'est le livre que j'aurais aimé lire, et donc je l'ai lu et je l'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que Lauren, donc déjà, elle écrit très bien, c'est très agréable à lire. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle a touché le point aveugle des écrits entre les femmes et la nourriture. Elle se saisit vraiment de choses dont on peut parler. En tout cas, c'est très méthodique avec des chapitres vraiment. Bien rangé. Voilà. Donc j'ai adoré.
Ouais. Et nous aussi, on a adoré.
Ouais. Dans la préface du livre, Lauren Malka, dans vos propos, on peut lire que lorsqu'on parle de cuisine, on fait souvent référence au partage, au bon moment passé ensemble. On se place dans le registre du symbolique. Vous parlez notamment de va-et-vient entre l'aliment et l'émotion pour désigner ça. Au-delà du fait de manger, de dévorer, de se lécher les doigts, on est surtout là pour les moments, les retrouvailles autour d'un espace-temps commun, la célébration de références communes, de racines. Et pour vous, si je comprends bien, il y a un angle mort dans cette vision des choses. Ça nous permet d'évacuer le plaisir physique de manger, de ne pas en parler, comme si ça n'existait pas.
Bah, y a quelque chose qui me frappe et qui était très présent dans la très très belle chronique de départ de Mao, c'est le fait, alors Roland Barthes le dit dans une phrase merveilleuse, quand je suis tombée sur cette phrase, c'était pour moi une trouvaille, il dit dans toute la mythologie, dans toute l'immense mythologie que les hommes ont écrite sur les femmes, les femmes ne mangent jamais, elles n'ont pas de ventre, exactement comme dans votre dans votre rêve Mao, elles n'ont pas de ventre, elles ne mangent pas. Ou alors, si elles ont un ventre, c'est un ventre caché, comme Pandore, qui est la première femme humaine de la mythologie grecque, qui a un ventre, une gastère, dit Hésiode, un ventre de chienne caché dans un corps très gracieux. Et il y a vraiment cette idée selon laquelle les femmes associées à la nourriture devraient être plutôt objets de plaisir et non sujets de leur plaisir et donc en fait objet de l'appétit masculin, de l'appétit des autres, mais ne doivent pas prendre de plaisir en tant que sujet.
Et c'est pour ça que notamment, et d'ailleurs ça fait partie de ce que disent les femmes que vous interrogez, qui disent oui, moi j'aime manger, mais qui se réfèrent tout de suite au moment partagé, à la famille. Est-ce que...
Oui, il y a cette idée, j'analyse ça. En fait, pour expliquer juste aux personnes qui n'ont pas lu Mangeuse part d'un appel à témoignage que j'ai lancé auprès de femmes et de jeunes femmes de différents âges et milieux sociaux. Et donc, j'ai commencé par interroger des femmes en leur demandant quel est votre rapport joyeux, convivial et tourmenté à la nourriture. Donc j'ai vraiment laissé un appel assez ouvert et les témoignages que j'ai reçus dans la partie joyeuse étaient des rapports très symboliques, comme s'il y avait une projection affective dans la nourriture et très peu de rapports purement physiologiques à la nourriture. Et voilà, j'essaye à chaque fois de faire des allers-retours entre ça, les témoignages que je recueille, ce que j'observe dans les témoignages que je recueille, et l'histoire des représentations culturelles, en fait, des femmes en lien avec la nourriture.
Oui, et on va le développer tout au long de cette émission. Mais en même temps, enfin, c'est vrai que ce symbole, il est symbolique, il est important. D'ailleurs, Aurélia, dans votre très belle BD La vie gourmande, vous commencez en parlant de la mort de votre grand-mère et de ce qu'elle a représenté pour vous. Comment elle a formé votre goût, en fait. C'est ça aussi, le manger, c'est quand même une transmission.
En fait, manger, alors c'est à la fois quelque chose qu'on fait tous les jours, qui paraît presque banal, et en même temps, c'est forcément chargé de symbolique et d'affect. Effectivement, la vie gourmande commence par le décès soudain de ma grand-mère. Elle est morte dans son sommeil à 80 ans, et en fait, on se rend compte que la famille se réunit autour du corps, et on se rend compte qu'à un moment, il y a ma tante qui vient avec un pot-au-feu fumant. Et en fait, c'est pas elle qui l'a fait, c'est ma grand-mère.
Ouais, c'est
hyper émouvant. Et en fait, on mange ce plat, mais on mange la grand-mère aussi. C'est-à-dire que c'est quasiment métaphysique.
Donc, voilà, en plus, elle en a fait beaucoup, comme voilà. Si elle savait qu'il y en voilà. avait un festin qui était prévu. Donc, ouais.
C'est ça.
Et puis Aurélia, je me permets de préciser, dans la BD La vie gourmande, dit aussi c'est toujours meilleur le lendemain. Et oui. Comme si ta grand-mère avait su, ouais. En préparant la veille, que ce serait dégusté le lendemain avec toutes les saveurs qui sont encore plus vives.
Et dans votre ouvrage, Lorraine Malka, il y a aussi cette contradiction constante dans laquelle on contient les femmes, une injonction contradictoire entre le surjeu de la gourmandise et le contrôle de ne surtout pas y succomber, jamais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, précisément pourquoi on demande aux femmes de surjouer la gourmandise et à la fois le contrôle aussi ?
En tout cas, c'est quelque chose qui est observé par les sociologues. Il y a une sociologue qui a mené une enquête dans les familles sur le rapport au plaisir alimentaire. Et elle a constaté effectivement que dès l'âge de 3 ans, les petites filles recevaient à la fois une injonction à la gourmandise. Elles sont encouragées dans l'élan de gourmandise et en même temps, elles sont réprimées. Donc, il y a cet aller-retour qui fait partie, me dit une sociologue que j'ai interrogée par ailleurs, ça fait partie de la partition de la féminité. C'est un va-et-vient entre cet élan gourmand et le fait de se réprimer. C'est vraiment l'image d'être prise avec la main dans le pot de confiture.
Sac,
dans le pot de confiture, dans le pot de Nutella, ou dans le pot de miel, voilà.
Et c'est quelque chose qui ne s'applique pas aux garçons.
C'est en fait les garçons dans cette observation sociologique sont plus poussés à varier à affiner leur palais et à complexifier leur rapport à la saveur. Et c'est ce que j'observe aussi dans la littérature enfantine, dans les albums pour enfants. Il y a des albums qui racontent des histoires de gourmandises de petites filles qui se font effectivement taper sur les doigts ou alors qui sont poussées à la crise de foie parce qu'elles ont mangé trop de bonbons et qu'elles finissent par vomir. Ou alors, chez la comtesse de Ségur, elles sont punies, la petite Sophie est punie sévèrement. Elle est enfermée dans sa chambre parce qu'elle a cédé à son plaisir. Elle adore les fruits confits. Donc, elle se fait punir. Alors que les petits garçons, très souvent dans les album pour enfants, et dans la réalité, c'est aussi le cas dans les observations sociologiques, sont poussés à développer leur palais, à développer un goût pour des saveurs plus complexes. Je donne comme exemple dans le livre la moutarde ou le fromage, qui sont immédiatement, même dans la publicité, associés aux hommes, comme si les femmes étaient forcément infantilisées dans le rapport au plaisir sucré.
Et cette dichotomie, il y a une forme, vous voyez, déjà dans la petite enfance, on la retrouve aussi ensuite entre qui fait la cuisine à l'âge adulte, entre les femmes au fourneau, le côté mère nourricière, etc., cantonnée à la cuisine domestique, et la maîtrise, la finesse de l'homme qui, lui, est le chef, qui va cuisiner professionnellement dans un restaurant. Ça aussi, vous l'analysez
Vous faites référence à ce qui s'est passé au moment des premiers restaurants, des premières écoles de cuisine professionnelle au 19e siècle à Paris, qui ont été interdites, dont l'accès a été carrément interdit aux femmes. Mais ce que je constate dans mon livre, c'est que c'est hyper flagrant à cette époque-là. Donc, effectivement, moi, je me penche beaucoup sur cette période. Là. Mais en fait, ce que je constate, c'est qu'à plusieurs époques, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, dès qu'une société a commencé à se pencher sur la cuisine raffinée et a commencé à démocratiser un accès à la gastronomie, enfin, dans l'Antiquité, on appelait ça la gastrologie, gastrosophie, en tout cas la sagesse du ventre, il y a eu une distinction violente qui s'est opérée, distinction sociale et distinction de genre, pour vraiment viriliser ce et rendre cette rhétorique militaire virile liée à la professionnalisation du métier qui risquait effectivement beaucoup trop d'être entrepris par les femmes, puisque les femmes sont assignées à la cuisine depuis très longtemps. Donc il fallait faire attention, surtout les écarter bien, oui. Bien clairement. Quoi.
Oui, et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de citer quand même cette Phyllis Gilbert voilà, au 19e siècle, en 1883. C'est assez...
Une citation gold,
ouais. Voilà. Je ne savais pas comment le dire. Donc j'y vais. Certains ont dit que la cuisine était l'apanage de la femme. Je l'accorde dans une certaine mesure, car comme il y a fagot et fagot, il y a cuisine et cuisine, et nous ne sommes pas à contester aux ménagères le pot-au-feu et le ragoût de mouton traditionnel. Que la majeure partie des cuisinières s'en tiennent là et ne prétendent pas à s'immiscer dans nos travaux. D'abord, trop fatigant pour leur complexion de femme. Ensuite, beaucoup trop étendues pour leurs faibles connaissances et dont elles ne peuvent rendre, quoi qu'elles fassent, qu'une très imparfaite, je dirais même une très mauvaise imitation. Voilà.
Mais il y a vraiment cette clair. Idée très, qu'on connaît, hein, et qui nous amuse presque tellement c'est impressionnant, mais en même temps c'est toujours très, enfin je trouve que ça imprègne toujours beaucoup oui. les consciences, cette idée selon laquelle la femme serait beaucoup plus adaptée à faire une cuisine, une popote, une cuisine domestique à la maison, et les hommes sont ceux qui portent la toque, qui sont les chefs. Ça imprègne encore énormément nos cultures, hein. C'est toujours le cas, et je suis sûre que si vous regardez les livres de cuisine, les livres de recettes de vos
Oula, oui.
de vos mères ou de vos grand-mères, il y a des recettes qu'on dit à la bonne femme, voilà. Et c'est la petite qualification des recettes qui sont simples, en fait. Mmh. Donc, par exemple, Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine, il donne voilà, des bisques de homard à la princière, à la financière, etc. Et les choses à la bonne femme. Les ragoûts, les soupes de volaille à la bonne femme, les soupes les céleris à la bonne femme. C'est le truc simple, vraiment, qui ne demande pas une grande sophistication.
Et Aurita, dans la première partie de La Vie gourmande, vous décrivez votre expérience dans le restaurant étoilé du chef Pierre Gagnère à Paris. Mm-hmm. Vous avez passé du temps en observation pour dessiner la vie des cuisines notamment. Et plus généralement, vous aimez aller au restaurant, vous connaissez bien le monde de la gastronomie, c'est un peu votre monde.
C'est un monde, c'est pas mon monde d'origine. J'ai découvert très récemment, en fait, ouais. grâce à Comme un chef, justement.
Mm. Et est-ce que quelque chose qui continue de vous frapper, c'est l'inégalité des genres dans ce milieu, dans l'observation presque sociologique que vous en avez eu un peu
C'est vrai que dans les cuisines, dans les brigades, donc déjà un terme très militaire, j'ai vu quand même plus d'hommes que de femmes, à tous les postes d'ailleurs. Mmh. Je le signale dans La Vie gourmande, comme ça, soit dit en oui. passant. Après, voilà, c'est l'organisation. Voilà, il y a... moi, j'ai pas observé ça directement, mais il y a aussi beaucoup de sexisme en cuisine, et peut-être que ça éloigne voilà les femmes de ces métiers-là qui sont déjà très difficiles. Alors si c'est pour se prendre des remarques ou des mains aux fesses en plus.
Oui, c'est ça. Vous avez observé voilà.
Moi, j'ai pas observé ça, mais j'ai lu des témoignages. Mmh. Ça arrive à tous les niveaux, le café du coin ou dans les restaurants étoilés. Et voilà, c'est ce qui explique peut-être l'absence de femmes à certains postes.
Il y a eu un début de MeToo Cuisine,
tout petit frémissement de vraiment de micro,
ouais.
rien oui, du tout. Hein, mais c'est pas vraiment, ouais. ça a pas vraiment explosé.
Ouais,
ça
ouais,
n'a
oui.
pas vraiment eu lieu.
On l'a vu quelques jours et puis ça a disparu.
La guerre du MeToo Cuisine n'aura pas lieu, j'ai l'impression.
Ou peut-être pas tout de suite, on peut avoir de l'espoir.
Et ça touche aussi la critique d'ailleurs. Parce que voilà, il y a les hommes critiques gastronomiques et les femmes journalistes culinaires. Vous dites,
oui,
Lorraine Malka.
Exactement, ça c'est Esterel Payani notamment qui m'explique ça très bien et qui effectivement c'est assez récent qu'on commence à faire que les femmes peuvent écrire sur la cuisine, mais les hommes sont toujours beaucoup plus présents en tant que critiques gastronomiques. Oui.
C'est l'heure de notre première chroniqueuse de la soirée, Chloé. Bonjour.
Bonjour.
Elle a pris son micro à la main.
Voilà, vraiment, ça y est, tu l'as empoigné.
C'est ta chronique Dynamite. Alors, aujourd'hui, tu nous fais une relecture des mythes de l'Antiquité. Il y a un mythe que Lorraine Malka cite dans son livre qui parle à la fois de femmes et de nourriture.
Et oui, et d'ailleurs, elle a commencé à en parler, c'est le mythe de Pandore. Donc ce mythe, il revient sur l'origine d'un sujet qui a beaucoup préoccupé les Grecs, qui est pourquoi il y a deux sexes. Et donc c'est d'autant plus important que pour les Grecs, en fait, ils répartissent tout ce qui peut expliquer le monde en deux catégories, ce qui relève du masculin, donc qui est supérieur, et ce qui relève du féminin, donc je ne vous fais pas le dessin. Donc par exemple, le chaud est masculin, le froid est féminin. Et si l'homme est supérieur à la femme, c'est selon Galien, le père de la médecine occidentale, parce qu'il est plus chaud.
Vaste programme, donc c'est le mythe de Pandore qui explique la différenciation entre les hommes et les femmes.
Oui, alors en fait, plus précisément, ce mythe, il explique pourquoi les femmes sont apparues, alors que les hommes étaient jusque-là bien peinards entre eux. Donc, parce qu'avant Pandore, il y avait déjà des humains, mais c'était tous des hommes. Donc ils cohabitaient avec les dieux en toute innocence, mais ils n'avaient pas besoin de travailler, puisque la nature pourvoyait à tous leurs besoins. Ils ne vieillissaient pas, et donc ça, c'était l'âge d'or que raconte le poète Hésiode.
Mais lorsque Zeus devient le maître de l'Olympe, c'est le moment où il décide d'attribuer une place à chaque chose dans le cosmos.
Voilà, et pour la place des hommes, il fait appel au titan Prométhée, et donc ça se passe au cours d'un banquet, donc c'est assez pertinent pour ce soir. Donc Prométhée prépare deux tas de nourriture, ça paraît peut-être un peu difficile de se représenter ça aujourd'hui. Donc le premier, il y a juste les os, mais avec une appétissante couche de graisse. Et sur l'autre taille, il y a la chair, mais elle est cachée dans un estomac de bœuf d'aspect répugnant, donc la gastère dont on parlait tout à l'heure. Et donc Prométhée propose à Zeus de choisir la part qui va revenir aux dieux et celle qui va revenir aux hommes. Zeus choisit la part qui a un bel aspect, mais qui ne contient rien. C'est pour ça que les humains mangent de la viande, mais que les dieux ne se nourrissent que de fumée.
C'est aussi pourquoi Zeus décide de se venger, c'est ça ?
Oui, il décide de se venger de Prométhée. Donc il retire aux hommes la vie et le feu qui étaient auparavant en accès libre. Et donc les hommes doivent se mettre à travailler. Ils doivent cacher des graines dans la terre pour les faire pousser et pour pouvoir se nourrir. Et pour le feu, donc Prométhée le vole, mais le feu qu'il vole est en fait de moins bonne qualité que celui de Zeus. Donc les hommes doivent aussi le cacher sous la cendre pour l'entretenir, sinon il meurt. Et dans un ultime rebondissement, pour répondre au vol du feu par Prométhée, Zeus finit par créer Pandore, dont descendent toutes les femmes.
Et on en vient donc à Pandore.
Et oui, enfin. Donc en fait, Zeus demande à Héphaïstos de modeler Pandore à partir de glaise et de lui donner donc la beauté d'une déesse, parce que s'il n'y avait pas de femme, il y avait quand même des déesses. Donc Pandore reçoit de nombreux dons des dieux. Donc par exemple, Athéna lui apprend à tisser, donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même l'occupation principale de toute femme grecque qui se respecte. Mais elle reçoit aussi des dons un peu moins sympas. Donc par exemple, Hermès lui donne un appétit de chienne et un esprit de voleur. Donc Pandore et donc toute la lignée des femmes qui en descend sont la réponse de Zeus à Prométhée qu'il a trompé en cachant donc cette nourriture dans un estomac répugnant. Donc toutes les femmes en fait sont un ventre comme ça jamais rassasié et l'homme doit continuellement travailler sans s'arrêter pour les nourrir. Les femmes, c'est aussi la réponse de Zeus à Prométhée qui a volé le feu. Et donc elles sont aussi un feu qui dessèche l'homme avec un appétit sexuel insatiable. Et donc finalement, cette arrivée des femmes, cette création de Pandore, ça fait partie de la place qui est assignée par Zeus aux hommes. Donc c'est la fin de l'âge d'or. Ils doivent donc, ce qu'on a vu, donc, cacher la semence du blé dans la terre pour se nourrir. Ils doivent cacher la semence du feu dans la cendre pour se chauffer et cuire leur nourriture. Et ils doivent cacher leur semence dans le ventre des femmes pour avoir des enfants. Mais n'empêche que, maintenant qu'on a dit ça, quand Zeus dévoile donc sa création, donc Pandore, devant l'assemblée des hommes et des dieux, tout le monde est conquis. En fait, tout le monde ne peut que être séduit. Et de la même façon que le sacrifice lie les humains et les dieux, mais en mettant une frontière claire entre les deux, puisque aux humains la chair, aux dieux le fumet, les femmes, elles sont à la fois à l'image des déesses, mais avec un caractère animal.
Tu nous as parlé du mythe de Pandore, mais tu nous as pas parlé de la boîte de Pandore, la fameuse.
Et oui. Effectivement, parce qu'en fait, cette boîte de Pandore, c'est vraiment un épisode très mineur pour les Grecs. Dans l'Antiquité, il n'est même pas question de boîte. C'est au XVIe siècle que cette boîte de Pandore fait son apparition, à cause d'une erreur de traduction d'Erasme. Et en fait, c'est vraiment une lecture chrétienne du mythe de Pandore qui en fait un double d'Ève. Donc, autre histoire qui parle de femmes séduisantes et de nourriture. Mais cette relecture chrétienne ajoute une dimension de culpabilité sur la femme, parce que dans l'Antiquité, malgré son estomac de chienne, aucun mythe ne tient Pandore pour responsable des maux de l'humanité.
Merci beaucoup Chloé, tu restes avec nous pour le reste de l'émission. On reprend notre discussion avec Lorraine Malka et Aurélia Horita dans quelques minutes. Juste avant, on écoute un peu de musique, le groupe américain Boy Genius avec leur titre « Souvenir » de 2018.
In the rearview mirror, hasn't caught a thing yet. $20 and a souvenir. Anything's worth trying to stay out of your nightmares. See, I was in your dream last night. Always end up dying. You said because of course I did.
C'était Boy Genius et leur titre Souvenir.
On se lève, comme ça, on se casse sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec nos invités Lorraine Malka et Aurélia Horita pour parler nourriture, cuisine, festin et rapport des femmes à l'alimentation et à la nourriture. Quand on parle du fait de manger, la question du sexe n'est jamais très loin, on l'a vu. Dans les deux cas, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité, du désir. Et ça joue aussi sur la manière dont les sociétés, à travers les âges, ont régulé l'alimentation des femmes. Quand on fait le parallèle luxure et gourmandise, pour parler en termes de péchés capitaux, pour vous, Lorraine Malka, il faut creuser un peu plus loin que le péché originel.
Plus loin que le péché originel.
Au sens, non. Parce que c'est souvent, vous dites que c'est souvent, l'image un peu basique qu'on a, c'est la pomme, Ève, et il y a beaucoup d'autres, et d'ailleurs on l'a vu aussi avec la chronique de Chloé, il y a beaucoup d'autres mythes, d'autres...
Oui, c'est vrai, il y a Pandore, il y a Ève, c'est-à-dire qu'en fait moi ce qui m'a fascinée à travers mon enquête, c'est de voir les constances anthropologiques, quoi. J'ai l'impression que effectivement, c'est un sujet aveugle qui a été très peu exploré. Enfin, voilà, la littérature là-dessus, la philosophie là-dessus n'existe que très peu. Alors que, comme je le disais, il y a une grande richesse intellectuelle, une grande réflexion autour du rapport au péché, mais de l'homme et pas de la femme. Or, la femme a un rapport singulier, spécifique. Au péché de gourmandise. Et effectivement, la luxure, en fait, au moment où Ève pêche en croquant la pomme, c'est le premier péché, c'est considéré comme le premier péché, et en même temps, c'est le moins grave de tous. Pourquoi ? Parce qu'il mène à tous les autres. Donc, il mène notamment au péché de luxure, qui est celui qui est vraiment le plus proche, quoi, du péché de gourmandise. Et donc, il est communément admis que en commettant ce péché, elle amène l'être humain à dévaler la pente des péchés, et notamment à commettre le péché de luxure. Entre autres parce qu'elle incarne elle-même, en fait, cette luxure, la femme. La femme est toujours vue à travers le regard de l'homme. Dans toute l'histoire culturelle, c'est le cas. C'est ce que montre très bien Simone de Beauvoir. Elle n'est jamais sujet, elle est toujours l'autre, le deuxième sexe, donc l'autre. Et elle est perçue comme étant cet objet comestible, cet objet de convoitise sexuelle. Donc, elle amène la tentation du péché de luxure.
Et du coup, la femme qui mange trop, qui ouvre trop grand la bouche, elle provoque le soupçon.
Bah effectivement, donc ce qui m'apparaît comme étant vraiment une constante anthropologique, c'est justement cette idée de femme qui mange et qui est associée à cette sensualité, à cette sexualité coupable à travers l'histoire et qui est à la fois objet de fantasme et effrayante. Et donc ce qui est assez dingue, c'est que on a effectivement l'exemple de Ève, on a l'exemple de Pandore dans la mythologie grecque. On a l'exemple dans les contes amérindiens, Lévi-Strauss repère une figure récurrente qui est la jeune fille folle de miel, qui est une femme prédatrice sexuelle, sauvage, qui elle aussi vide les provisions et l'énergie sexuelle des hommes, c'est-à-dire le miel alimentaire, mais aussi le miel sexuel des hommes. Donc il y a vraiment cette idée de menace, de femme menaçante, parce que prédatrice, quoi, et en même temps très désirable. Et pardon, juste un dernier exemple, mais ce qui me fascine, c'est à quel point la constance anthropologique va loin, dans le sens où dans nos publicités, aujourd'hui encore, le CSA a très récemment déploré le fait que les femmes sont en majorité dans les publicités alimentaires représentées comme étant des consommatrices qui exagèrent les réalisateurs demandent d'exagérer le plaisir comme une jouissance sexuelle à chaque fois qu'elles croquent dans une glace chocolatée, alors que les hommes sont représentés comme étant des experts de la consommation alimentaire.
Et d'ailleurs, ça va quand même loin, parce que vous expliquez que, alors là, on remonte encore un peu dans le temps, l'exclusion des femmes de la gastronomie, et plus particulièrement de la gastronomie aristocratique, donc 17e siècle notamment, ça s'explique par l'érotisation des restaurants, où les gérants font leur beurre sur ce que vous appelez la libidinisation de la gastronomie parisienne. Donc les femmes gourmettes et chefs sont exclues complètement, elles n'existent pas, mais celles qui répondent aux désirs sexuels des hommes, elles, dans les restaurants, sont acceptées.
Elles sont acceptées au moment du dessert. C'est vraiment les courtisanes, les prostituées qui arrivent au moment du dessert et qui font partie, enfin qui sont elles-mêmes le dessert. Et j'ajoute juste, je trouve que ce qui est assez savoureux dans la vie gourmande d'Aurélia Horita, c'est que pour une fois, ça m'a saisie quand j'ai découvert ça, pour une fois, une femme apporte c'est impressionnant le travail d'écriture érotisante que Aurélia a opéré dans l'observation des hommes qui cuisinent. Et c'est la première fois, personnellement, c'est la première fois que je lisais ça. Et pourtant, j'ai beaucoup lu sur la gourmandise. Je n'avais jamais lu dans l'écriture d'une femme la description qu'elle fait des hommes qui cuisinent dans l'aspect que ça peut comporter de sensuel. Et je trouve que c'est vraiment un retournement, mais qui est puissant.
Oui, exactement. Bah, on voulait y venir. C'est notamment dans la description des cuisiniers, des cuisines de Pierre Gagnaire, dans son restaurant étoilé à Paris. Mais aussi, d'ailleurs, dans la description des saveurs et des sensations de la nourriture que vous comparez parfois avec celle du sexe. Enfin, voilà, pour vous, est-ce que sexualité, Aurélie Aurita, sexualité et gourmandise vont de pair ?
Bien sûr. Voilà, next question.
Non, mais en fait, je suis contente, Lorraine, que tu aies remarqué ça, parce que voilà, la bande dessinée, c'est quand même un milieu très masculin, même si depuis quelques dizaines d'années, ça change, heureusement, mais on est encore minoritaire. Et les modèles avec lesquels moi j'ai grandi en lisant des bandes dessinées, c'est soit des choses pour les enfants, soit des trucs pour ados, avec des héroïnes avec des gros seins, enfin, pour les BD commerciales. Après, j'ai découvert les romans graphiques. Et pour moi, en fait, c'était le fait de dessiner des hommes désirables, c'était un peu ma petite contribution au female gaze, voilà, parce que il n'y a pas de raison. Et j'aime bien qu'on me complimente dessus, parce que je fais très attention à ça. Ouais, à
des hommes comestibles.
Exactement.
Oui, c'est quand même quelque chose, en tout cas le female gaze, que vous avez défriché dès votre BD Fraises et Chocolat.
Oui, sauf que je l'ai poussé un peu plus loin, parce que dans Fraises et Chocolat, finalement, donc c'est le récit d'une passion amoureuse, donc un couple, voilà, qui arrête pas de faire l'amour tout le temps. Mais en fait, c'était mon dessin à l'époque, donc c'était il y a presque, je sais plus combien d'années, mais ça remonte à 2006. J'avais pas un dessin aussi réaliste que maintenant, c'est-à-dire que du coup ce que je représente dans Fraises et Chocolat, c'est quasiment le sexe vu de l'intérieur. Je sais pas si je suis claire. On a tellement l'habitude de représenter la sexualité d'un point de vue extérieur, enfin dans toute la pornographie c'est ça. Donc dans Fraises et Chocolat, j'ai un dessin presque, enfin voilà, caricatural. C'est ce qui a beaucoup déstabilisé les gens à l'époque. Et là, dans La Vie Gourmande, de la même manière où je modifie mon dessin en fonction, j'ai plusieurs registres de graphiques, et quand j'ai envie de représenter mes sensations, c'est quelque chose de pas très réaliste. Par contre, quand je représente ce que j'observe, que ce soit la nourriture ou les belles personnes, j'essaye de faire quelque chose de plus pas photographique, parce qu'il y a le filtre du dessin, mais voilà, je voulais juste signaler cette petite nuance graphique.
Et Lorraine Malka, vous, dans votre ouvrage, vous revenez notamment sur un lieu commun que vous débunkez, et d'ailleurs c'est très utile. On dit souvent que le culte de la minceur, c'est des années 2000 et un peu avant, que c'est une affaire récente, qu'avant les formes, les chairs, le gras, tout ça s'était valorisé. On cite beaucoup les tableaux de Rubens, les tableaux de la Renaissance, mais on peut aussi évoquer l'impressionnisme. Mao m'avait dit que quand elle avait 15 ans, elle se disait qu'elle aurait mieux fait de vivre dans un tableau de Manet. Vous dites dans votre ouvrage que c'est plus compliqué que ça, en fait.
C'est incroyable cette croyance. Je sais pas, à chaque fois que je disais que je travaillais sur les femmes et la nourriture, déjà immédiatement on me disait, ah oui, tu travailles sur le rapport à la minceur, forcément. Alors que pour moi, il y a d'autres choses, justement. On parlait du rapport au péché, de comment les hommes... Enfin, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir, de voir que les hommes avaient trouvé cette construction collective, cette façon de sortir, de s'exonérer du péché de gourmandise de façon collective, historique, patrimoniale, à travers un décorum très officiel et ritualisé. Et comment les femmes trouvaient des façons, chacune dans leur coin, puisqu'elles ont été exclues historiquement de toute cette construction-là. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et ensuite, seulement après, je me suis intéressée au rapport au corps, puisque effectivement, même historiquement, le corps devient une trace éventuelle de ce rapport au péché, de gloutonnerie éventuelle, à partir du moment où on a des volumes du corps qui sont liés au fait d'avoir grossi, d'avoir trop mangé. Enfin, dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment cette idée-là. Et voilà. Et par contre, effectivement, il y a cette croyance extrêmement répandue selon laquelle la minceur serait une injonction récente. Alors qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la minceur est une norme très très ancienne qui s'impose aux hommes comme aux femmes et qui est très très présente depuis l'Antiquité et à toute époque. C'est une forme de, surtout chez les élites en fait, c'est une forme de façon de montrer sa retenue, son équilibre. C'est une bienséance sociale. Mais les femmes ont affaire à une injonction supplémentaire qui est celle d'incarner aussi la graisse à certains endroits du corps, les parties du corps qui essentialisent les femmes, à savoir les fesses, les hanches et les seins. Donc c'est une façon de toujours ramener les femmes, de les maintenir dans un rapport à leur fonction procréatrice et sexuelle. Et c'est une façon pour les femmes de signaler leur disponibilité dans ces fonctions premières. Et alors, juste pour revenir à Rubens, qui est toujours cité comme étant, soi-disant, le chantre de la corpulence féminine, en réalité, Rubens, il a écrit un traité hyper précis pour expliquer que les femmes doivent être, justement, minces et grosses, ce qui est complètement intenable et ce qui implique des régimes alimentaires monstrueux, enfin, torturants de tout temps, parce que comment on fait pour être mince et grosse à certains endroits seulement ? Enfin, on s'arrache les cheveux depuis qu'on est petite, tout autour de cette table pour ça, je pense. Et donc, et Rubens a écrit un traité où il explique que les fesses doivent être charnues mais retroussées, surtout pas flasques, que les seins doivent être bien, bien lourds mais tenir droit. Enfin, tout un tas de normes complètement impossibles à tenir, quoi.
Donc en fait, Kim Kardashian, c'est juste une version complètement exagérée du truc. C'est la même chose.
Complètement.
C'est exactement
ça. Kim Kardashian,
ça.
Elle incarne totalement cette injonction très très ancienne au fait d'être mince dans la silhouette générale et d'incarner la graisse qui est cette incarnation, cette façon de signaler ce que j'appelle dans le livre une tripotabilité, quoi, pour dire voilà, je veux bien être tripotée.
Et bien sûr, oui, toutes ces injonctions, elles mènent à ce qu'on connaît des épidémies de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les TCA, pour parler rapidement. Enfin, vous-même, vous dites que vous vous situez, parce qu'en fait, voilà, on a l'image de l'anorexie, de la boulimie, aussi un terme qui se développe aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui commence à être un peu plus connu, c'est l'hyperphagie. Vous décrivez ces troubles et qui sont en fait qui peuvent toucher dans un spectre large beaucoup de gens en fait. C'est pas forcément être hospitalisé sous perfusion à l'hôpital. Et vous-même vous dites dans le livre que vous vous situez dans le spectre de l'anorexie mentale. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre, enfin, pour réfléchir à votre rapport vous-même à la nourriture?
C'est pour ça, et c'est parce que j'ai l'impression que c'est un tabou, et je le confirme à travers mon livre, puisque la très très grande majorité des femmes que j'ai interrogées ont développé à un moment ou à un autre de leur vie ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus, on est en train de prendre conscience justement du fait qu'il y a un spectre plus large de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie et des TCA, des troubles des conduites alimentaires. Et on appelle aujourd'hui cela l'anxiété alimentaire. Mmh. Et donc c'est le fait de développer vraiment effectivement une peur. Une peur de se nourrir, quoi, une peur d'ingérer, une peur du rapport au physiologique pur, une peur de la nourriture, une peur de grossir. Et effectivement, moi, je me situe sur ce spectre-là dans la mesure où je suis extrêmement, extrêmement disciplinée et très, très attentive à ce que je mange. Et je pense que... je sais maintenant... Je suis très très loin d'être la seule et qu'il faut en fait faire circuler cette parole-là impérativement pour se rendre compte que en fait on est très très nombreuses.
En explorant le rapport au corps, le rapport à la nourriture, Aurélia Horita, vous avez traversé une expérience très particulière et douloureuse. Vous avez eu un cancer du sein, qui dit cancer dit traitement agressif pour traiter la tumeur, fatigue, perte de cheveux. Et puis, votre appétit a changé lui aussi. Vous dites que vous êtes devenu un bec plus sucré, comme on dit. Qu'est-ce que la maladie a changé sur le moment dans votre goût?
La vie gourmande, donc ça raconte, oui, effectivement... Enfin, le cancer, mais d'un point de vue culinaire, j'ai choisi cet angle parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de bandes dessinées très bien sur le cancer, hein, parce que c'est une vraie épidémie. Et donc, du coup, une des deux chimios que j'ai eues, alors c'est peut-être juste très personnel, mais elle me laissait un arrière-goût métallique dans la bouche. Et je me réveillais et je ne pouvais pas manger. Enfin, ça modifiait tout, en fait. Et y avait des aliments que j'adorais, que j'ai pu manger. Et ça, en fait, c'est assez déstabilisant. Et plus tard, parce que c'est arrivé 1 ou 2 ans avant le Covid, quand j'ai commencé à écouter des témoignages de gens qui avaient perdu le goût. Alors moi, je ne l'avais pas perdu complètement, mais c'est quand même quelque chose de très personnel, le goût. Et le fait qu'il change comme ça ou qu'il soit complètement absent, enfin... c'est très déstabilisant et je voulais en témoigner parce que c'est quelque chose que je n'avais pas lu dans les témoignages sur le cancer en général.
Et du coup, vous vous retrouvez à avoir très envie de sucre,
oui,
ouais, et à vous faire plaisir.
Oui, pardon, oui, c'était ça la question. Oui, ben écoutez, ouais, ça fait partie des choses qui changent, oui. Ouais.
Et par rapport justement à ce culte de la minceur, pour vous, plus personne ne peut rien vous dire à ce moment-là,
oui,
parce que vous êtes malade.
Je fais une blague parce qu'effectivement, je n'échappe pas aux injonctions sur la minceur, bien que j'ai jamais dépassé la taille 40. C'est ça qui est terrible en fait. Que je suis pas, voilà. Mais en gros, c'est vrai que quand on est malade, on a d'autres priorités que de rentrer dans un 38. Et surtout, y a la peur de mourir et de que tout s'arrête du jour au lendemain et de dire non, je me suis privée. Je me suis pas privée. J'ai eu la chance de voilà, mais
j'ai fait attention quoi.
Voilà, c'est ça. J'ai fait attention toute ma vie et là, je me suis voilà, c'est bon, j'en ai rien à foutre, j'ai d'autres priorités. Voilà.
Et est-ce que ça, le fait d'avoir traversé cette épreuve, ça a changé ensuite votre rapport au fait de manger? Ou est-ce que les injonctions, elles sont revenues
Ça dépend, c'est variable. Hein. Mais ce qui a changé, c'est que mon rapport à la vie est plus joyeux. C'est-à-dire que je me prends moins la tête pour des petites choses, y compris la nourriture.
Ouais.
j'ai jamais compté mes calories, mais voilà, j'ai toujours un petit œil quand même sur la composition. Mais je pense qu'il y a, il y a plus de légèreté.
Mm-hmm. Lorraine Malka, vous voulez dire quelque chose ou...
C'est simplement que, en découvrant un peu mieux le travail d'Aurélia, je considère, mais après c'est ma vision, c'est une interprétation que je développe dans le livre, j'essaye de développer ce que j'interprète comme étant une écriture féminine de la cuisine, une écriture culinaire féminine qui ne concerne pas que les femmes. Je cite Proust, par exemple, qui a ce rapport-là. Mais en tout cas, c'est une écriture qui relie, selon moi, une pratique d'écriture qui relie, selon moi, les personnes qui ne sont pas, qui ont été exclues, en fait, de la table virile, de la table gastronomique dont je parlais tout à l'heure. Et je trouve qu'Aurélia s'inscrit dans cette pratique d'écriture et dans cette histoire littéraire, dans la mesure aussi où elle choisit l'angle. Enfin, il y a quand même cette, vous en parliez tout à l'heure, Mao, ce rapport à la mémoire. Ça commence par la mort de sa grand-mère. Il y a ce rapport à la maladie. Enfin, c'est quand même des choix d'angle qui sont très particuliers et qui ne sont pas, qui sont plutôt dans. Enfin, pardon, juste pour terminer, Proust parle du fait d'être dans un rapport à l'acte de manger, soit rétrospectif, soit en anticipant le plaisir de manger, et non pas dans l'acte présent de manger. Et je trouve que Aurélia s'inscrit bien là-dedans. En fait.
Passage sur Proust, c'est l'un de mes préférés dans Mangeuse.
Justement, on va reparler d'écriture dans un instant, mais d'abord, c'est le tour d'Émilie. Bonjour Émilie, ça va ?
Bonsoir, oui, t'as.
Le corps et le cœur des femmes, c'est tout le sujet de ta chronique ce soir. Tu nous parles à nouveau d'hystérie que tu explores cette année, et c'est un peu l'ancêtre pour toi des troubles alimentaires.
Exactement. Freud et Charcot avaient d'ailleurs identifié des anorexies hystériques par opposition à celles dites apepsiques. Mais bon, laissons ça de côté pour le moment parce qu'on n'en est pas encore là dans notre histoire de l'hystérie. Nous l'avons vu dans une précédente chronique, l'histoire de l'hystérie remonte à l'Antiquité où des remèdes charmants du type massage de la vulve ou mariage des patientes avaient été élaborés. Au IIIe siècle de notre ère, on est donc encore en plein dans l'Antiquité, le médecin grec Galien, dont on a déjà parlé ce soir, avait d'ailleurs étendu aux hommes ce mal féminin par excellence. Mais c'est une vision des choses qui sera rapidement laissée de côté avec le Moyen-Âge, qui fera de nouveau de l'hystérie une affection purement féminine.
Et alors, au Moyen-Âge, ça donne quoi ?
Alors, à part l'hystérie masculine, on abandonne aussi cette idée d'un animal utérus qui s'assèche quand il est privé du sein liquide mâle et qui, par impatience de faire des enfants, irait se balader dans le corps en attendant. Je sais sais pas si vous vous rappelez de cette partie de l'histoire. En tout cas, c'est ça qui provoquerait donc les célèbres convulsions hystériques, selon Hippocrate, du moins le père fondateur de la médecine. Parce qu'en fait, entre-temps, au Moyen-Âge donc, on a trouvé mieux comme théorie. La femme hystérique serait possédée par un démon qui la rendrait totalement folle et serait à l'origine de ces crises impressionnantes. Pas mal, non ?
C'est un peu comme les sorcières, du coup.
Exactement. Enfin, c'est même pas comme les sorcières, elles sont sorcières. C'est pourquoi on leur réservait le même traitement que vous connaissez sans doute, la pendaison, la noyade ou le bûcher. Très efficace comme méthode de soin, je le concède. Enfin, du moins, ça éradique le problème.
Et du coup, c'est pas très fiable hein, comme méthode.
Oui, c'est pas très fiable et c'est pas très viable non plus. Enfin, tout dépend du point de vue tout de même. L'assassinat des hystériques, enfin sorcières comme vous préférez, servait d'exemple. En général, les possédées étaient en fait des femmes qui refusaient de se plier aux normes sociales et qui dérangeaient les hommes pour une raison ou pour une autre. Et puisque ne pas se ranger signifiait le bûcher, ben ça décourage. En fait, ici, il s'agit plus de soigner, entre grands guillemets évidemment, les différentes patientes comme c'était le cas dans l'Antiquité. Ici, c'est plutôt une rééducation morale à l'échelle de la société qui est visée.
Par cette nouvelle approche. Et on s'inscrit donc parfaitement dans le contexte chrétien qui régit cette époque.
Exactement. D'ailleurs, alors que pendant l'Antiquité, on considérait le manque d'activité sexuelle comme cause du mal hystérique, désormais l'excès pouvait également en constituer une raison. Il n'y a qu'à penser au péché originel perpétré par Ève, dont on a aussi déjà parlé ce soir, et on comprend très bien pourquoi. Ou encore à la prostituée de Babylone, pardon, cette femme maléfique décrite dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Cette tentatrice donc qui entraîne les hommes et le monde entier dans sa décadence morale, et elle a tout d'une sorcière hystérique. C'est d'ailleurs aussi comme ça que Fritz Lang la met en scène dans son film culte Métropolis, sorti dans les années 1920. Et pour l'anecdote, avec l'Inquisition, les femmes vont enfin acquérir le statut de sujet juridique, mais uniquement dans le but d'être condamnées à mort au tribunal. Donc bon. Avec tout ça, le Moyen-Âge a donc l'air bien obscur, mais rappelons tout de même ici que rien n'est jamais simple et que c'est aussi une construction historiographique et politique de présenter le Moyen-Âge comme époque débile, inutile et se résumant à l'Église, la peste et la traque aux sorcières. On pourrait presque dire qu'elle prépare plutôt la Renaissance qui vient juste après et où l'épopée hystérique reprend de plus belle, comme nous le verrons dans une prochaine chronique.
Merci Émilie, on te retrouve très vite pour poursuivre ton voyage aux origines de l'hystérie.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours en compagnie de Lorraine Malka, journaliste qui signe le livre Mangeuse, paru cet automne, et également avec l'autrice de BD Aurélia Horita, nos deux invités ce soir pour décrypter notre rapport à la nourriture et à la cuisine. Lorraine Malka, vous nous dites qu'une femme qui mange bien, qui mange avec appétit, sans retenue, c'est une femme qui va inspirer donc la méfiance, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, potentiellement une débauchée. En fait, pour dépasser le soupçon de gourmandise et de lascivité, voire de luxure, il faut donc... en quelque sorte sublimer la gourmandise et passer dans le registre du symbolique et donc écrire dessus, c'est ça ?
Alors je sais pas si c'est pour remédier, mais en tout cas il se trouve que c'est ce qu'elles font et en fait c'est ce que font aussi c'est ce que font les gastronomes, c'est vraiment une façon assez naturelle, enfin pour l'être humain de faire appel à la raison, à l'érudition, au fait de rendre les choses plus artistiques, d'esthétiser les choses, de les anoblir pour encore une fois s'affranchir du soupçon lié au rapport au corps qui est toujours très, très perçu comme très coupable dans notre société. Mais ce qui différencie selon moi les hommes et les femmes là-dedans, c'est justement le fait que les femmes sont obligées de faire ça pour elles-mêmes de façon assez, assez secrète et cachée parce qu'elles n'ont pas accès à cette façon collective de construire un savoir et un rapport à l'écriture gourmande, à ce qu'on appelle l'éloquence gourmande, qui est fondée par Grimaud de la Reynière après la Révolution et qui exclut explicitement les femmes.
Oui, vous racontez le plaisir qu'il y a aussi à lire et à écrire un repas, un plat délicieux. Et donc, c'est comme vous le disiez, une manière d'intellectualiser aussi la gourmandise. Vous parlez notamment du fait qu'à travers les époques, les femmes se sont révélées très douées pour goûter par l'esprit. Et vous citez pas mal d'exemples.
Voilà, mais c'est ce que je disais juste avant la chronique sur l'hystérie, c'est que effectivement, il y a vraiment cette idée que j'essaye de retracer J'essaye de dessiner les contours de cette pratique littéraire qui, à mon sens, est spécifiquement féminine. Quand on dit qu'il y a une écriture spécifiquement féminine, c'est toujours très, très mal perçu parce qu'on considère que c'est une façon d'essentialiser les femmes, de les ramener à leurs conditions. Alors que moi, je considère au contraire que c'est une façon de considérer que l'histoire a mis les femmes, a exclu les femmes d'un certain rapport à l'écriture, d'un certain rapport à l'intellect, au savoir. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec les mythes racontés par Chloé. Et donc, le fait pour les femmes de reconquérir ce rapport au savoir se fait forcément d'une façon très créative, puisqu'elles arrivent très tard dans cette possibilité-là. Et donc, c'est Colette, selon moi, la pionnière de cette écriture, qui écrit des chroniques. On considère toujours qu'elle est une écrivaine gourmande, mais en fait, si on s'intéresse vraiment à ses chroniques culinaires, par exemple, celles qu'elle a publiées dans Vogue dans les années 30, c'est des chroniques avec des choses qui ne se mangent pas, en fait. Elle a notamment une recette de poisson au coup de pied qui est faite à base de ciel cendré et de elle dit un peu de sorcellerie. Elle a une recette, elle est à un moment, elle doit écrire une recette de bœuf languedocien, et elle, en fait, finalement, elle se rend compte que sa narratrice est malade comme un chien parce que voilà, et qu'elle n'a pas du tout envie de manger. Et elle dit même qu'elle n'a pas envie de devenir comme les adipeuses rédactrices en chef de Vogue, donc un peu de grossophobie au passage. Et voilà. Et donc, Colette, quand elle écrit des chroniques gourmandes, c'est toujours des chroniques qui sont des projections poétiques de la gourmandise. Et je note ça chez plusieurs écrivaines, effectivement, dont Ryoko Sekiguchi, dont on parlait tout à l'heure.
Et je crois qu'on va bientôt devoir accrocher, mais on voulait vous poser une dernière question. Aurélia Horita, on a trouvé votre bande dessinée tellement jolie qu'on se demandait qu'est-ce qui vous donne envie de dessiner la nourriture.
Le fait, comme ces femmes qui écrivent sur la nourriture, de garder une trace d'un moment éphémère. Et là, dans mon cas, j'ai une écriture par le dessin aussi. La bande dessinée, c'est le texte et le dessin étroitement mêlés. Et avec les couleurs notamment, je peux essayer de restituer au plus près mais les sensations que j'ai vécues. Et donc la vie gourmande se termine par la guérison, la fin de la maladie. Et puis pour fêter tout ça, je consacre 40 pages à un repas gastronomique dans un restaurant à la Madeleine sous Montreuil, la Grenouillère. Et en fait, pendant 40 pages, c'est ça, c'est juste...
C'est magnifique. C'est un très beau récit.
C'est de la très beauté.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas l'écriture aussi finalement qui rend ça sublime ? Parce que cette expérience, on se dit, limite, elle est encore mieux là sur le papier qu'elle a été pour vous en vrai.
Bon, je dirais pas qu'elle est mieux. Je dirais que de toute façon, au moins, ça reste. Voilà. Je fais dire à Pierre Gagnère, donc c'est une parole qu'il m'a dite. En fait, il me disait que nous, ce qu'on fabrique finalement dans nos cuisines, c'est de la nostalgie. Parce que tous les plats que les cuisiniers ont mis des heures et des heures à fabriquer, ils sont engloutis en 30 secondes. Mais bon, c'est ce qui reste, c'est le plaisir, et le plaisir du moment partagé avec ceux qu'on aime.
Et on va devoir raccrocher, je crois, malheureusement. On est contraintes par le temps. Merci beaucoup, Lorraine Malka. Je rappelle que votre ouvrage Mangeuse aux éditions Les Pérégrines est disponible en librairie, tout comme les bandes dessinées d'Aurélia Horita. Et on recommande notamment La Vie Gourmande, qui est sortie chez Casterman. Merci infiniment à toutes les deux de vous être jointes à nous.
Merci à vous.
Merci à Chloé et Émilie, nos super chroniqueuses. Et merci à toi, Mao.
Et très bonne fin d'année à toutes et tous. On vous embrasse et on vous retrouve le mardi 16 janvier sur Radio Campus.
Salut.
Paris. Il est 21h.